enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Étude biblique du foyer chrétien. Le thème de notre étude, c'est la maison sur le roc. Quand nous devrions appliquer les principes bibliques et les mettre en pratique si nous voulons avoir une maison, un foyer solide. Et lorsqu'il va y avoir de l'adversité, de la difficulté, nous allons pouvoir demeurer solide, passer en travers et avoir du succès dans notre ménage et dans notre foyer. Je vais mentionner que l'étude est divisée en trois parties. Il y a le côté spirituel. Qu'est-ce que j'appelle le côté spirituel? C'est ce que je parle de les principes applicable en relation avec mari et femme. Et cet après-midi, on va parler sur un sujet bien important. On va prendre un peu plus de temps pour ça. J'ai gardé seulement un sujet cet après-midi. J'ai cancellé la communication pour garder plus de temps que possible sur le sujet de relation entre parents et enfants. Mais encore, ça fait partie de l'aspect spirituel du mariage. C'est divisé en trois parties. Le côté spirituel, qui est relation entre mari et femme, entre parents et enfants, et notre relation avec le Seigneur. Mais il y a le côté matériel aussi. On va parler sur le côté des dettes et finances. Et aussi, il y a le côté physique, qui est le côté sexuel qu'on va parler après le banquet ce soir. Incidemment, nous demandons que, pour ça qu'on vous donne assez de temps pour retourner chez vous, si vous voulez, entre la session de cet après-midi et pour le banquet, parce qu'on aimerait que chaque personne soit habillée le plus présentable possible. Cravate, veston, les femmes bien habillées. On sort nos femmes ce soir, les gars. On les sort, c'est un banquet et j'aimerais que tout le monde soit bien habillé, très présentable pour ce soir. On va y avoir un bon temps ensemble et puis aussi en même temps, on va renouveler nos vœux. Mais pour briser un peu les études sur la relation entre mari et femme, c'est-à-dire entre enfants et parents, qu'on va faire cet après-midi, j'ai pensé d'introduire l'aspect matériel du mariage chrétien ce matin. C'est extrêmement important. J'ai mentionné hier qu'il y a trois problèmes majeurs qui causent le divorce dans les mariages. Le premier problème, c'est les beaux-parents. Deuxième, c'est les dettes, les finances. Et troisièmement, c'est le sexe. Et on va parler du deuxième problème sur cette quatrième session, qui est l'aspect matériel du mariage, en regardant ensemble dans Philippiens 4:11, un petit verset qui dit beaucoup. Philippiens 4:11. La dernière partie du verset, je crois que tout le monde devra le souligner dans leur Bible. Philippiens 4:11. Ici, l'apôtre Paul écrit sur l'inspiration de l'Esprit-Saint, puis il dit ceci. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. J'ai appris à être content dans l'état je me trouve. Ça, c'est donc important si on veut avoir du succès sur nos finances. J'ai appris. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Ça ne vient pas naturel. Il faut l'apprendre. Il faut apprendre à être content. Parce que depuis notre enfance, on a été élevé à toujours à vouloir ce qu'on n'a pas. L'enfant va toujours pleurer pour qu'est-ce qu'il n'a pas. Tu viens d'y acheter un jouet, il a joué quelques minutes, puis là, il va voir un de ses amis arriver avec un autre jouet, et puis là, il va laisser son jouet de côté pour aller vouloir prendre le jouet de l'autre dont il ne lui appartient pas. Il n'est jamais content avec ce qu'il a, il veut toujours avoir d'autres choses. Et on a grandi avec cette mentalité-là. Toute notre vie, on est encore des enfants gâtés. Un homme adulte ou une femme adulte, c'est seulement encore des adultes gâtés. C'est des enfants gâtés. On veut toujours avoir ce qu'on n'a pas, puis on n'est jamais content avec ce qu'on a. Il y a quelqu'un une fois qui a demandé au millionnaire Rockefeller combien d'argent que ça prenait pour être heureux. Il a dit ceci, un peu plus, un peu plus, un peu plus, tout le temps. Et puis, regardez des gens qui ont beaucoup d'argent, malgré qu'ils ont beaucoup de bébelles dans leur cour, qui ont des grosses maisons, qui ont des yachts, qui ont toutes les choses, ne sont pas plus heureux que vous et moi. Fait que nous voyons ici que le problème numéro un, numéro deux, je voudrais dire, du foyer, c'est les dettes. D'apprendre à être content dans la situation que nous sommes se trouve être le secret du bonheur. Le secret du bonheur est le secret du succès du chrétien. On ne devrait jamais se réjouir dans quoi que ce soit et faire notre bonheur de quoi que ce soit, excepté le fait que notre nom est écrit dans le livre de vie et que nous sommes sauvés. Tout le restant est temporaire. On peut avoir beaucoup de choses et beaucoup de choses peuvent être enlevées de nous aussi. Mais il ne faut jamais que notre bonheur et notre contentement soient dans des affaires que nous appartenons en aucun temps. Voyez-vous, la télévision, les relations publiques, les annonceurs ont comme pour psychologie de faire passer des annonces dans les journaux et la télévision et partout pour créer une dissatisfaction. En voulant dire, ils vont toujours arranger leurs annonces d'une façon que tu ne seras pas satisfait excepté que tu l'as. Moi, il faut que je me discipline là-dessus, surtout sur le côté des autos. Je viens juste de m'acheter une auto neuve, puis tout de suite, je regarde donc l'autre, puis je dis, oh, j'ai... Voyez-vous? Toujours dissatisfait avec ce qu'on a. Il faut faire extrêmement attention à ça, parce que ça, c'est un esprit qui entre en nous, qui va créer un esprit de critique et qui va causer beaucoup de problèmes dans la famille. Car les commerciaux vont nous démontrer à la télévision que si on n'a pas le produit qu'il démontre, il nous manque quelque chose dans notre vie. On n'est pas intelligent, pas en vain, qu'on peut obtenir ce morceau-là. Aujourd'hui, on a dans notre société cet esprit qu'on mérite tout et on devrait tout avoir. On n'a aucune discipline. Et un des plus grands problèmes qui peut exister dans notre foyer et dans notre vie, c'est les dettes achetées à crédit et les cartes de crédit. Les cartes de crédit veut dire ceci. Le but de la carte n'est pas pour nous faire dépenser ce qu'on gagne. Mais le but de la carte, c'est pour nous faire dépenser plus que nous gagnons. C'est pour ça qu'il vous donne la carte. Dans le but de vous faire dépenser plus que vous gagnez. Vous savez que la carte Mastercard, qui veut dire carte maîtresse. Mais je réalise qu'au lieu que nous soyons le maître de la carte, c'est la carte qui est maître de nous. Et je crois que sur chaque carte, il devrait y avoir le même avertissement qui existe sur les paquets de cigarettes. Et à chaque fois qu'ils vont vous envoyer la carte de crédit, il devrait être annoncé, attention, utilisation de cette carte cause la tension dans votre mariage, ça vous rend irritable, dépressif et vous pousse à devenir esclave pour toujours. Okay. Pourquoi que ça cause des problèmes dans le mariage? C'est que premièrement, on vit tout encore sous l'influence du syndrome d'Adam. Savez-vous ce qui était le problème d'Adam? Et ceci. C'est lorsque il a pris décision, une mauvaise décision, et a cédé à la tentation, lorsqu'il a été réprimandé par le Seigneur pour la pression qu'il y avait sur le dos d'avoir pris une mauvaise décision, que c'est qu'il dit? Il dit, c'est à faute de la femme que tu m'as donnée. Et je vous le dis, puis ça, c'est une vraie expérience que vécue, puis je conseille régulièrement avec des gens, que lorsqu'il y a des pressions de dette sur le foyer, dans le foyer, qu'on ne peut plus rencontrer nos obligations, qu'on parle de saisie, la première chose que l'homme va faire, c'est de blâmer sa femme. T'es trop dépensière. T'as pas besoin d'une laveuse à vaisselle. Ma mère a toujours lavé la vaisselle à main, elle. Puis là, elle va répliquer, puis elle va dire, « Mais t'avais pas besoin de cette télévision-là couleur avec le VCR. Mon père avait seulement radio, lui. T'avais pas besoin de ces bâtons de golf. » Et puis là, on va dire, « T'avais pas besoin du manteau de fourrure. » Et là, la chicane commence et on commence à se blâmer un l'autre. Jamais qu'on va prendre le tort et dire, « Je m'excuse, chérie, c'est de ma faute à moi complètement. J'ai laissé la situation sortir hors de nos... » Parce que voyez-vous, le mari est en charge et c'est au mari de dire non si la femme est trop exigeante. Pour aucune considération, je t'enlève toute organisation de crédit et finance entre tes mains si tu ne peux pas prendre la responsabilité de ce côté-là. Mais je vois que souvent, c'est le mari qui exagère, parce que lui, il va dépenser beaucoup sur lui-même, des choses égoïstes, des bâtons de golf, des clubs sportifs et bien des affaires, même au dépens de négliger sa famille et sa maison. Il faut faire extrêmement attention à cela, car on est toujours pris, lorsque la pression vient sur nous autres, de se blâmer un et l'autre. Il est bien important que si nous voulons avoir du succès dans notre foyer, sur le côté spirituel, il faut mettre le Seigneur le premier et les principes bibliques dans notre vie. Si on veut avoir du succès sur le côté physique de notre mariage, il faut appliquer les principes bibliques dans notre vie. Et c'est la même chose sur le côté matériel et sur le côté des finances. Il faut complètement et entièrement appliquer les principes bibliques dans notre foyer concernant les finances si nous voulons bien vivre. Et une des raisons pourquoi que ces cartes-là existent aujourd'hui, c'est dans le but de nous faire dépenser plus que nous gagnons. Et deuxièmement, on va toujours, souvent, marchander et acheter par impulsivité, ne réalisant pas qu'on s'endette. Avez-vous remarqué, d'un premier temps, on appelait ça une carte de crédit. Mais ils ont voulu nous laver le cerveau parce qu'ils ont dit crédit, ça ressemble trop à dette, ça. On est mieux d'enlever le mot credit card ou carte de crédit. On va mettre seulement plutôt Visa ou MasterCard. Souvenez-vous de ça? Puis par la suite, charge, c'est encore chargé, c'est un peu comme crédit, ça, puis dette. On est mieux mettre MasterCard. Enlever toutes sur les cartes qui parlent de crédit, qui parlent de charge ou qui parlent de dette. Et on ne devra jamais, à aucun temps, s'endetter. Et puis, on ne devra pas non plus signer pour un autre. Aujourd'hui, il y a tellement de monde qui nous approche, qui vont dire, bien, je ne suis pas solvable à la banque. T'es un bon chum, toi? Ou t'es un bon ami, signeras-tu pour moi? Juste m'appuyer sur ce côté-là. J'aimerais que vous, je n'ai pas le temps de vous lire les versets, mais vous pouvez le lire chez vous, dans Proverbes, le 22e chapitre, versets 26 et 27. Proverbes 22, 26 et 27, et aussi Proverbes 6, 1 à 5. Proverbes 6, 1 à 5, nous dit bien qu'on ne devra jamais signer ou prendre un engagement pour les dettes d'un autre. Même le Salomon dit, si jamais que par erreur, tu es allé signer un engagement pour une dette d'un autre, il dit, va le voir, mets-toi à genoux devant lui et puis supplie-lui de t'enlever de la responsabilité de sa dette, car il va venir chercher ton lit sur toi. Et c'est ça qui arrive. Parce que si la banque, elle, a dit que cette personne-là n'est pas solvable, pourquoi que vous allez prendre vos biens pour la rendre solvable? Si la banque ne veut pas prendre une chance avec cette personne-là, pourquoi vous allez prendre une chance avec les autres? Il faut que chaque personne prenne sa propre responsabilité. Bien important, la Bible nous dit ceci. Puis, je connais une famille dans l'Église où ils sont allés signer pour un autre pensant qu'il faisait bien comme une action chrétienne, si vous voulez. Puis après ça, la personne n'a pas remboursé la dette et puis ils ont été obligés de payer. Puis aller travailler à l'extérieur pendant quelques années pour payer la dette de l'autre. Endetté ou endetté, je devrais dire. Endetté veut dire ceci. Si vous voulez même le marquer, je vais vous le lire tranquillement parce que c'est bien important. Endetté veut dire responsable à. Endetté veut dire imposable. Endetté veut dire imputable. Endetté veut dire circonstance embarrassante. Endetté veut dire en difficulté. Encombré. Gêné, dans le rouge, on doit, en arriérage, insolvent ou insolvable. Comprenez-vous? Endetté veut dire responsable à quelqu'un, imposable, imputable, circonstance embarrassante, en difficulté, encombré, gêné, dans le rouge, on doit, en arriérage et insolvable. Et pourtant, Romains, le 13e chapitre, 8e verset, dit « Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. » Luc 3, 14 dit « Contentez-vous de votre salaire. Contentez-vous de votre salaire. Et qu'on tombe jamais dans la trappe qu'on doit dépenser plus qu'on gagne. » Je me suis aperçu, moi, dans ma vie, qu'au lieu d'être content avec ce que je gagnais et avoir foi que Dieu était pour entreprendre pour moi avec ce que je gagnais, j'avais toujours plus de foi à ma marge de crédit que j'avais dans le Seigneur. Aussi longtemps que j'avais une marge de crédit, j'avais foi. Mais je crois de tout mon cœur qu'on peut mettre notre marge de crédit de côté et dire, Seigneur, je crois de tout mon cœur que si tu veux que j'aie cette chose-là, qui est bon pour ma famille et pour moi, que tu vas entreprendre pour que je puisse l'acheter cash. Ou entreprendre qu'ils soient impressionnés sur leur cœur de me le donner. Mais voyez-vous, souvent, on a plutôt foi dans notre marge de crédit, et quand il arrive une difficulté, après ça, on est obligé de prier, « Seigneur, sors-moi du trou. Seigneur, aide-moi. » Mais il faut compter le coût pour ne pas tomber dans le trou. Il faut compter le coût pour ne pas tomber dans le trou. C'est rendu qu'aujourd'hui, je crois que beaucoup de gens qui payent d'intérêt aux dépens de la nourriture pour leur famille. Car voyez-vous, Proverbe 22, 7 dit, « Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. » Et ça met de la pression sur chacun de nous. Je me souviens bien, moi, que dans le temps de mes parents, j'avais encore peut-être une dizaine d'années, qu'un bon samedi matin, mon père c'est mis son habit de dimanche, et puis ma mère, sa plus belle robe, et puis on m'a mis un veston, puis tout. Je me parlais comme si je m'en allais à l'église, je dis, qu'on s'en va. Il dit, c'est pas personne. Puis dans ce temps-là, il y avait seulement une compagnie, un bureau de Household Finance. Puis c'était sa rue Sainte-Catherine, juste en face de Morgan, près de Burks. Là. J'étais petit gars, je me souviens trop d'avoir pris le tramway, puis me rendre là. Et puis là, je ressentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Et puis, quand on est arrivé à l'entrée de ce bureau de crédit, mon père regardait à gauche, à droite et à gauche, puis regardait partout, voir si quelqu'un le voyait rentrer, puis là, il disait, « Ouais, rentre, dépêche-toi! » Puis là, je regarde, je suis chevalier à 10 ans, j'allais à l'école anglaise, je dis « household finance ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça, papa, household finance? Je dis « n'ai pas personne, je suis venu ici, là. » C'est à une honte d'emprunter dans ce temps-là. Une personne n'osait jamais d'être en crédit. On ferait rire de nous autres si on est en dette. Et puis, pour une raison ou de l'autre, je ne sais pas ce qu'il y en est, il était obligé d'emprunter un montant d'argent. Et puis, c'était un embarras et une honte pour lui. Puis, il a travaillé fort pour le remettre le plus tôt que possible et jamais remprunter par la suite. Ça a été une honte pour lui, un embarras. On ne disait jamais ça, qu'on était en dette. Mais aujourd'hui, c'est la norme de notre société. Et c'est pour ça qu'on doit des billions, et même notre gouvernement est des billions en arrière-âge. Ils ne pourront jamais reprendre le dessus. Parce que les gens sont trop gâtés à cause de leurs dettes. Ils ont eu trop de biens, puis ils ne veulent pas sacrifier pour revenir au normal. Et puis le pays s'en va vers le désastre, complètement et entièrement. Et je n'ai pas besoin d'avoir un esprit de prophétie, je n'ai pas obligé d'être prophète pour vous dire qu'il s'en vient un temps où ce que notre société va complètement échouer à cause de la dette. Même parce que les gens sont trop gâtés pour dire on va serrer la ceinture et on va revenir au normal. On veut, on veut, on veut. On a toujours vécu ce niveau de vie-là, mais je veux vous dire que le niveau de vie que nous vivons, c'est un niveau de vie de pression. C'est un niveau de vie de mange-laine sur le dos. C'est un niveau de vie où ce que tout le monde est sur les pilules. Ça cause le malheur au lieu de bonheur. Dans une attitude de dissatisfaction à travers de ce monde entier, ça commence tout par le foyer. Et si chaque personne dans chaque foyer se satisfait avec ce qu'ils ont et vivra selon leurs moyens, le pays ne sera pas en dette non plus. Mais on est tellement habitué d'avoir des choses qu'on ne veut pas sacrifier et le gouvernement, s'il veut être élu, est obligé de donner aux gens. Puis en donnant aux gens, il est obligé d'endetter le pays et ça continue sur une chaîne vicieuse qui va venir pour notre destruction. Et ça va détruire le pays. Mais nous ne sommes pas des enfants de ce monde. Nous ne sommes pas les enfants de ténèbres et on n'est pas obligé de se soumettre aux principes de ce monde. Parce qu'on ne juge plus à cette heure, nous autres, le succès ou la valeur d'une personne par le nombre de belles bébelles qu'ils ont dans leur cour. On juge le succès d'une personne par le bonheur et la paix et la joie qu'ils ont dans leur foyer. J'aime bien mieux me promener avec une petite auto avec la paix qu'avoir une grosse Cadillac et puis être prêt à avoir rien à manger pour faire les paiements. C'est ça qu'on veut dire. Et la seule façon qu'on peut régler cette situation-là, c'est de préparer un budget. Car si on n'a pas de budget, puis s'il n'y a pas de budget de formuler dans notre foyer, on est écarté. On est semblable à quelqu'un qui s'en va dans une ville étrangère. Comme j'ai une couple d'amis ici qui savent que je m'en vais en France, puis tout de suite, ils m'ont fourni avec des cartes géographiques de la France et tout pour me montrer où est-ce que je devrais aller et comment je devrais me rendre à un certain endroit. Et imaginez-vous donc si je suis dans une ville comme Paris, puis je n'ai aucune carte géographique, puis je ne sais pas ce que je m'en vais. Mais savez-vous ça que tout foyer qui n'a pas de budget, qui ne vit pas avec un budget, est écarté? Financièrement, ça veut dire ce qui agit seulement par impulsivité, complètement par impulsivité, et on ne devrait jamais faire cela. Guy et Nicole ici, et je crois avec Alain qui est un comptable, ils ont préparé une étude pour un budget, puis ils invitent toutes les couples mariés ici, je pense le 4 avril, d'assister, puis ils vont vous montrer comment préparer un budget. Je n'aurais pas besoin de parler de budget comme tel ce matin, mais il va vous montrer comment préparer un budget. Vous allez voir, ça va être annoncé dans notre bulletin, et puis je crois que c'est le 4 avril, samedi soir, ils vont vous démontrer comment préparer un budget. Mais c'est bien important qu'on se prépare un budget et qu'on établisse les priorités du budget. Et si vous voulez commencer à marcher selon un budget, qu'est-ce que ça veut dire, ça, marcher sur un budget? Même si vous aviez un grand salaire avant, mettons, vous faisiez 1 000 par semaine, tout d'un coup, vous avez perdu votre travail, puis là, vous êtes sur l'assurance chômage à 250 par semaine. Ça veut dire, ça, que je vends ma maison, je vends mon char, je me débarrasse de mes deux télévisions en couleur, je me débarrasse de mon VCR, je me débarrasse de beaucoup de choses, mais je vais m'arranger pour vivre avec 250 par semaine et non pas d'exiger le même niveau de vie que j'avais auparavant. Peut-être qu'on a besoin d'apprendre à sacrifier un peu aussi. Ça nous fait du bien d'enlever certaines bébelles. C'est un des fardeaux qu'on s'enlève dessus le dos quand même. Et puis de commencer à dire, Seigneur, c'est pas mes bébelles qui est ma joie de vivre. Mon mari, ma femme, mes enfants vaut beaucoup plus qu'un salaire. Et tout ce que je ne veux pas vivre sous pression, mais j'aime mieux manger du ballonné qu'au lieu du steak et vivre en paix et sans sous la pression des dettes. C'est bien important. Et la femme ne devra jamais critiquer son mari dans ce temps-là, mais dire, je comprends, mon mari est assaillé, on passe un temps de difficulté, mais je suis en arrière de toi et je suis prêt à sacrifier et tourner au hot dog. Sans ça, il y a deux pressions sur le dos, puis il n'est plus capable d'en venir à bout. Il veut se plaire à sa femme et ses enfants, mais en même temps, il est obligé de rencontrer des exigences, donc la société ne peut pas le permettre présentement. Fait que l'apôtre Paul, il dit, j'ai appris à être content en toute situation. Et l'apôtre Paul, vous le savez, que des fois, il était invité à demeurer sur un millionnaire comme Philémon, qui avait des esclaves et tout, et il vivait une grosse vie lorsqu'il était en visite dans ce coin-là. Tout d'un coup, il allait dans une autre ville, il se faisait arrêter, puis il était rendu à prison. Mais il était aussi content pendant qu'il était à prison, puis il chantait les gloires de Dieu, comme qu'il vivait dans la maison de millionnaire. Il était aussi heureux pendant qu'il était dans le palais faisant face à César ou lorsqu'il y était à un autre endroit, à une autre prison quelque part. L'important, c'est de réaliser que notre bonheur ne consiste pas du nombre de bébelles qu'on appartient. Bien important, cela. Puis il y a des fois que si on met notre confiance et notre bonheur dans les bébelles, Dieu va les enlever. Il veut que notre bonheur soit complètement et entièrement à lui. J'ai lu un article une fois. La bénédiction de rien appartenir. Jésus appartenait à tout, lui, mais il n'appartenait à rien. Quand il y a un jeune homme l'approchait une fois, puis il a voulu être son disciple, il dit, je veux te suivre. Le Seigneur, il dit, tu veux me suivre? Sais-tu, je ne sais même pas ce que je vais me coucher ce soir, je n'aurai même pas un oreiller pour ma tête. Je ne sais même pas ce que mon prochain pas va venir. Et il dit, les oiseaux, eux autres, ils ont leur nez. Les renards, ils ont leur trou. Il dit, moi, je ne sais même pas ce que je vais coucher à soir. Tu veux-tu me suivre? Allô? Extrêmement important d'apprendre à être content dans toute la situation que nous sommes, puis de vivre selon le moyen et les budgets que nous avons. Ça nous fait du bien, de temps en temps, de partir de Ville-Mont-Royal et aller vivre dans Pointe-Saint-Charles. T'sais. C'est bon pour l'âme. C'est bon pour notre orgueil. C'est bon pour l'humilité. Si on peut apprendre de le dire, bien, le Seigneur a de quoi me dire sur ce côté-là. Et le Seigneur va toujours entreprendre pour nous. Je me souviendrai que lorsque j'ai laissé le travail que j'avais avant, j'ai été assez haut placé dans le département de police d'enquête et protection pour les actes criminels contre l'Hydro-Québec. J'étais un rang plus haut qu'un capitaine. Puis, je faisais un salaire dans 1976 de 40 000 piastres dans l'année. Et puis, quand que j'ai pris le pastorat de la petite église à Saint-Eustache qu'on a débuté, mon salaire a baissé à 14 000 piastres. Puis, j'avais payé plus d'impôts sur mon autre salaire que je gagnais comme salaire. Et il y a des gens qui me disaient souvent, bien, comment tu vas faire pour vivre avec un salaire comme ça? Ou maintenant, les journalistes, quand ils m'interviewaient là-dessus, il disait, bien, est-ce que ça paye plus comme pasteur que la position que tu as? Puis il dit non. Mais tu ne te laisses jamais conduire par le salaire ou par l'argent, mais toujours par la volonté de Dieu. Et puis, c'est vrai, j'avais une grosse marquise dans ce temps-là, Brome. Ouais, c'était comme conduire un salon, si vous connaissez ça. T'sais? On descendait à Floride avec ça. Puis, aussitôt que j'ai rentré dans le ministère, j'ai été obligé de vendre la maison à Sainte-Thérèse en haut. Mes enfants ont vécu ça, puis mon épouse, puis j'apprécie mon épouse, puis mes enfants m'ont toujours backé complètement. Ils ont toujours été en arrière de moi, ils ont toujours prié, ils n'ont jamais critiqué, puis ils ont toujours aidé. Puis j'apprécie leur aide. On a vendu notre maison à Sainte-Thérèse en haut, puis on a pris une maison semi-détachée à Saint-Eustache. J'ai vendu la grosse marquise, j'étais pris avec une petite rabbit. Et puis au lieu d'aller en Floride, sur le bord de la mer, dans un motel, on s'est allé avec une petite tente dans le bout de Myrtle Beach, avec la petite rabbit. Mais savez-vous qu'on était aussi heureux, aussi bénis, puis je n'ai jamais regretté d'avoir pris la position de devenir pasteur. Aujourd'hui, je n'appartiens même plus de maison, même mon char ne m'appartient pas, il est loué. Puis je suis béni énormément. Moins que j'appartiens des bébelles, plus je suis heureux. Parce que ça dit bien qu'une des choses qui vont empêcher, qui vont étouffer notre spiritualité, va être les biens de la terre. Et être conscient des biens de la terre. On a besoin, c'est beau, mais le Seigneur nous prospère dans le but d'aider l'œuvre surtout, plus que d'autres choses. On doit vivre dans la prospérité. Je crois que le mandat que le Seigneur nous donne est qu'on devrait nourrir les gens qui ont faim, on devrait habiller les gens qui sont nus, et on devrait aider les gens qui sont dans le besoin. Fait que le Seigneur veut que le chrétien prospère, parce que comment qu'on va pouvoir appliquer le mandat qu'il nous a donné, et puis de faire ce qu'il nous a demandé de faire, si c'est nous autres qui est tenu puis qui a faim. Fait que Dieu veut nous prospérer, mais pour les bonnes choses, c'est dans le but de partager et donner et de bénir l'œuvre et les gens et l'Église. Comme j'ai mentionné, celui qui n'a pas de budget est comme quelqu'un qui est écarté dans une ville étrangère. Il est important qu'on garde un record des revenus et dépenses. C'est ça qui s'appelle un budget. Il faut rendre compte de toutes nos obligations, y incluant nos assurances, nos taxes, et avec les finances, commençant notre budget avec maintenant le Seigneur le premier dans notre vie et avec nos dîmes. Je veux être sincère avec vous ici cet après-midi. Une des raisons, je crois, pourquoi que le Seigneur a béni notre Église et qu'il m'a béni, c'est le fait qu'on a appris à mettre le Seigneur le premier dans nos finances comme toute autre chose. Et lorsque vous établissez un budget, mettez le Seigneur le premier aussi sur votre budget et il va bénir votre budget. Il est bien important de pratiquer la foi avec les finances, commençant par notre budget. Et lorsqu'on prépare un budget, c'est ça qui est bon. Ça nous montre de marcher avec une discipline et non pas par impulsivité. Et les madames, quand vous allez magasiner, puis je sais que la majorité des femmes, Dieu les a créées comme ça, puis c'est important parce qu'on a chacun un rôle dans la vie, vous aimez magasiner. Mais qu'est-ce que je trouve le plus étrange, c'est que les femmes ne veulent jamais l'admettre. T'as remarqué? Quand on part pour une grande vacance à quelque part, la première chose que ma femme demande, y a-t-il des centres d'achat? Et puis, si on lui dit, garde, tu veux toujours magasiner? Moi, j'aime pas ça, magasiner. Et pas ici, je peux parler le matin. Mais les femmes cherchent toujours des ventes. Les magasins savent que vous êtes toujours séduits par des ventes. Fait qu'ils ont toujours des ventes. Hein? Fait qu'ils vont prendre un manteau qui se vendait à 150$, ils vont le mettre en vente à 225$, puis il va se vendre. Ah, vous riez, mais c'est ça que les magasins font! Je sais, moi, il y en a même un qui travaillait dans un magasin ici, gérant d'un magasin de manteaux, qui m'a appelé, puis il dit, mon gérant veut que je compte des mensonges, être malhonnête. Puis il dit, les manteaux qu'on vendait, il dit, cet hiver, à 150$, là, il veut que je le mette en vente à 225. C'est pas pour rien, je vous le dis. Et je suis obligé de mentir. Qu'est-ce que je fais d'une situation comme ça? Puis là, ça se vendait parce qu'il était en vente à 225$. Mais l'important, c'est l'idée qu'on ne se fait jamais influencer par une vente. On se demande, est-ce que c'est prévu au budget ou non? Si c'est prévu au budget, gloire à Dieu, je vais l'acheter. Mais si ce n'est pas prévu au budget, ça veut dire que j'achète seulement par impulsivité. Je laisse cet esprit-là en cause sans qu'à parler de moi, d'être mécontente, accepter que j'aie cette chose et puis je commence à être une influence destructive pour ma famille. On arrange notre budget d'une façon comme moi. Je suis allé une fois pour acheter, dans le temps, c'était un char qui valait 25 000$. Puis il était en vente à 20 000$. J'ai dit, c'est le bon temps de l'acheter, il était en vente à 20 000$. Mais mon budget était seulement 15 000. Malgré que c'était une vente à 20 000$, je ne pouvais pas me le permettre parce que mon budget était à 15 000. Comprenez-vous ce que je veux en dire? Mais je te dis que je vous garantis pendant un mois de temps là, que je me faisais du mauvais sang parce que je te trouve dit, attends, essayer d'analyser pour trouver. C'est ce char-là que je voulais à 20 000. C'est ce char-là que je voulais. Puis ma femme disait, bien, notre budget est ça. Puis on a dialogué ensemble. Et puis c'est elle qui a gagné. Puis elle avait raison. Elle avait raison. Mais je me laissais agir par impulsivité. Puis on allait être obligé de sacrifier ailleurs. On arrange notre budget d'une façon ou d'une autre que nos dîmes sont toujours les premiers. Et par la suite, c'est notre hypothèque. Et ensuite, c'est le manger, les épiceries, les choses de ce genre-là, les assurances, etc., etc. Mais on établit un budget. Puis on a un budget où ce qu'elle a un certain montant dépensé pour elle-même. Elle fait ce qu'elle veut avec cet argent-là. Puis moi, j'ai certains des montants dépensés pour moi-même. Puis je fais ce que je veux avec cet argent-là. Et puis là, on fait ce qu'on veut avec notre argent. Fait que si elle veut s'acheter une robe de plus, puis elle veut aller magasiner, elle fait ce qu'elle veut, je ne dis pas un mot. Mais si je veux aller jouer au golf avec mon argent, elle ne peut pas dire rien. C'est mon argent à moi. Bon, on est arrangé dans notre budget d'une façon, par exemple, que si jamais que je décide plutôt de prendre l'argent que je n'ai pas, puis aller acheter un steak à quelque part dans un restaurant, puis j'ai dépensé de l'argent de la maison qui n'était pas budgété, bien là, je suis obligé de faire la même chose pour elle, parce que ce n'est pas juste pour elle que moi, je suis allé m'acheter un gros steak d'un restaurant, et puis qu'elle, elle n'a pas joui de ça. Fait que j'ai dit, pour me dompter, non pas seulement que je suis obligé de m'excuser, mais là, je suis obligé d'acheter un steak à elle. Tu sais? De mon argent. C'est comme ça qu'on apprend. Il faut se discipliner et se surveiller les uns les autres. On a un budget pour chaque chose et puis on devrait se surveiller à voir qu'on maintient ce budget-là. Et puis, si tu veux acheter de quoi qui n'est pas prévu sur le budget, achète-le avec ton argent de loisir. Ouais. Ça fait toute la différence. C'est bien important qu'on se prenne en considération les uns les autres sur ce côté-là et s'aider et se surveiller. Mais si on n'a pas de budget, on va complètement et entièrement échouer et ça va être l'un des plus grands problèmes que nous allons vivre dans notre vie chrétienne. C'est le problème des dettes. Savez-vous que ça cause plus de chicanes, plus de troubles, plus d'ennuis, plus de friction, plus d'irritation, plus d'inquiétude? Et je vais vous dire quelque chose pour vous montrer que c'est une influence destructive. C'est que vous allez remarquer que Satan, lorsqu'il vous commence à vous faire dépenser en dette, vous dépensez plus et plus. Et plus qu'une personne qui est endettée, plus qu'une personne a le désir d'aller dépenser pour se rendre heureuse un peu plus, pour faire oublier un peu ses problèmes. Parce que la raison pourquoi je vais acheter ce manteau-là que je n'ai pas moyen de l'acheter, la raison pourquoi je vais acheter cette auto-là que je n'ai pas moyen d'acheter, c'est rien parce que ça me rend heureux. Ça me rend heureux seulement pour le moment, mais quand la facture arrive, par exemple, là, je suis plus heureux. On a donc du fun dans le temps de Noël, hein? Ça dépense, puis des cadeaux, puis on y va, puis tout ça, puis tout le monde est heureux. Mais au mois de janvier, savez-vous que c'est un temps dépressif, parce que les factures entrent dans les dépenses de Noël. Il faut toujours aller avec un budget. À cette heure, concernant la foi que nous devrions pratiquer dans nos finances. Si vous voulez, s'il vous plaît, regardez avec moi dans 1 Corinthiens, le 16e chapitre, 2e verset. 1 Corinthiens 16, 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Voyez-vous, le Seigneur n'exige pas tout, mais tout ce qu'il vous demande, c'est de pratiquer à le mettre le premier. Fait que le premier jour de la semaine, tu mets la première partie de ton salaire à l'œuvre du Seigneur. Selon qui dit votre prospérité, qui veut dire pro rata. Si je peux vous donner un guide biblique concernant la formulation d'un budget est ceci. C'est que moi et mon épouse, depuis le début, on a toujours mis notre dîme le premier. Le Seigneur a dit dans Malachie, le 3e chapitre, « Éprouve-moi si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux et que je ne te bénirai pas, te donner une bénédiction même que tu ne pourras pas contenir. » Mais quand il dit « Mets-moi à l'épreuve », qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand je n'ai pas les moyens du tout, c'est là que je dois le mettre à l'épreuve. Fait que tu veux dire, pendant que je n'ai pas rien à manger puis je ne suis pas capable de rencontrer mes obligations, tu veux que je donne pour l'œuvre de Dieu? Ce n'est pas moi qui veux que tu donnes pour l'œuvre de Dieu. C'est la Bible qui dit, « Mets-moi en épreuve si je n'ouvre pas les écluses des cieux. » Et c'est quelque chose qui fonctionne. Est-ce que Dieu est dans le trône et sur le trône ou non? Est-ce que Dieu est dans le ciel ou non? Est-ce qu'il a contrôle ou non? Est-ce que ce qu'il a dit est vrai ou il n'est pas vrai? Et l'apôtre Paul, il dit, « En principe, selon votre prospérité, fait que lorsque vous allez prospérer, vous allez donner en conséquence, parce que si vous donnez en pourcentage, vous allez toujours donner plus comme vous prospérez. Prorata, c'est ça qu'on dit. Fait que le principe de la Bible, c'est la dîme, et si on applique ce principe-là, je crois que tout le monde va prospérer aussi bien que l'Église. J'aimerais que vous sachiez que l'Église n'est pas une organisation ou une agence de quêteux. C'est ça qui est malheureux, c'est qu'on pense souvent que les églises, c'est une agence de quêteux. Et lorsqu'on passe l'offrande le dimanche matin ici, j'aimerais que vous sachiez que ce n'est pas la quête que nous passons parce qu'on n'est pas des quêteux. Mais je crois de tout mon cœur que si on applique le principe biblique, on donne l'opportunité aux gens les dimanches au matin, le premier jour de la semaine, d'appliquer ce principe biblique, de donner au Seigneur selon la façon qu'ils ont prospéré. Et puis, s'il est rentré seulement 50 $, tu donnes seulement 5 $. S'il est rentré 100 $, tu donnes 10 $. Selon qui t'a prospéré. Et puis, en retour, tu le fais comme une œuvre et une offrande devant le Seigneur, en remerciement pour tout ce qu'il a fait pour toi. Mets ce principe-là en opération, puis je vais vous dire que lorsque vous allez organiser votre budget, que le Seigneur, non pas parce qu'il va vous prospérer tout d'un coup en vous faisant gagner une mini-loto, une loterie, quelque chose de ce genre-là, mais il va vous donner la grâce et la paix et la force de vivre selon le budget dans la paix, et vous allez commencer à prospérer en conséquence, non pas seulement financièrement, mais spirituellement aussi. Et si tout le monde, aussi en même temps, serait fidèle sur ce côté-là, non pas seulement qu'eux seraient bénis, mais la province serait bénie aussi, parce qu'on pourrait évangéliser complètement la province. Et je veux terminer avec ceci. Le principe de la dîme est bien important pour notre bien-être spirituel de notre famille. Parce que si vous regardez dans Malachie, le troisième chapitre, il a dit non pas seulement que je vais ouvrir les écluses des cieux dans le but de vous bénir, de vous donner une bénédiction que vous ne pouvez même pas contenir, mais il dit je vais empêcher le dévoreur de venir et détruire vos biens et votre famille. Et là, je vais dire quelque chose qui va être dur à accepter de peut-être certains ou plusieurs parmi nous. Mais je crois qu'une des raisons pourquoi vous vivez dans friction, une des raisons pourquoi vous vivez dans l'irritation, une des raisons pourquoi que vous vivez dans défaite et que vous êtes toujours avec des problèmes, c'est parce que le dévoreur a accès à vous. Et le Seigneur a dit, je vais l'empêcher d'avoir accès à vous si vous me mettez le premier. Pourquoi cela? Vous le savez, pareil comme moi, qu'on ne peut pas appliquer les principes du royaume différemment que les exigences de l'extérieur. Que je veux dire par cela? C'est qu'on pense que quand ça vient pour les choses de Dieu, que les choses de Dieu passent toujours en secondaire. Et qu'est-ce que vous penseriez, vous, si le gouvernement ici, présentement, au Québec, dirait, là, à ce temps, vous avez fait vos impôts de 1986, on a passé une nouvelle loi pour 1987, et là, pour l'année 1987, là, vous payerez vos impôts seulement si vous êtes capable et ça vous tente. Ça sera beau, hein? Il y aura des trous dans la rue, hein? Puis des policiers sur le chômage, puis des voleurs prendront le contrôle de la province. Imaginez-vous donc quelle catastrophe si le gouvernement se fierait seulement sur l'influence, sur le the mood of the people, le bon vouloir des gens pour payer leurs taxes. Mais qu'est-ce que le gouvernement sait qu'il ne peut pas se fier sur vous autres, fait qu'il dit, on va servir le premier. Hein? Puis le Seigneur, lui, a le même principe pour son royaume. Je ne peux pas me fier sur vous autres, mais me servir le premier, fait que je veux que vous mettez le premier dans vos finances. Mais en retour, je vais prendre beaucoup mieux soin de vous que le gouvernement, par exemple. On est heureux d'être délivré. On a beaucoup plus d'argent, on est beaucoup plus prospère aujourd'hui que quand on était dans le monde. Parce que dans ce temps-là, on dépensait sur la drogue, sur toutes sortes de convoitises, sur la boisson et bien des dépenses inutiles que le Seigneur nous a délivrés de tout cela. Et il nous a prospérés, on est devenus des meilleurs employés, on a un meilleur tempérament sur le travail, on est respecté encore une fois. Et puis le Seigneur nous prospère chez nous aussi, on vit dans la paix et dans la joie. Dieu a tellement été bon pour nous parce qu'on a entendu l'Évangile. Mais le restant de la province aussi a besoin d'entendre l'Évangile et c'est pour cela que nous payons nos dîmes parce que nous aimons notre province, nous aimons nos voisins et on veut avoir toutes les facilités nécessaires, l'équipement nécessaire et avoir toutes les possibilités à notre disposition pour évangéliser et dire à cette province, « Hey, vous n'êtes pas obligés de vivre dans le malheur, dans la confusion que vous vivez. On a quelque chose de mieux pour vous. On a l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. » Hallelujah! On n'aime pas tant ça. On n'aime pas tant ça. Et puis, il y a des gens qui vont dire, « Bien ça, les principes de la dîme, c'était seulement pour l'Ancien Testament. » Puis, j'aime toujours quand les gens me disent ça. Parce que j'ai dit, dans ce temps-là, si tu veux payer ta dîme selon les principes du Nouveau Testament, on va aller regarder dans les Actes des Apôtres, le 6e chapitre, ensemble. Ça dit que les chrétiens, ils ont tout vendu puis ils ont tout donné à l'Église. Fait que choisis si tu veux le principe du Nouveau ou de l'Ancien. C'est une question que, qu'est-ce qu'on va semer, on va récolter. Et si on met le Seigneur le premier dans notre côté spirituel, on va prospérer spirituellement. Si on met le Seigneur le premier sur le côté physique, on va prospérer physiquement. Et c'est la même chose sur le côté matériel. Si on le met le premier, on va aussi être béni et prospérer matériellement. N'oubliez pas, comme on a dit, il va y avoir une session sur les budgets le 4 avril. Puis là, on va vous montrer comment établir un budget selon les principes bibliques. Et je sais que ça va vous aider énormément. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Ça veut dire, là, en autre mot, que si quelqu'un a un besoin, que s'il prie sur le besoin, il ne mentionne pas d'autre, et son besoin est entrepris miraculeusement, il sait que c'est le Seigneur qui a entrepris et non pas seulement juste son frère ou sa sœur. C'est bon, c'est une bonne façon d'exercer notre foi, ça. Oui, tu veux te lever, s'il vous plaît, puis... C'est ça. Oui, il y a des fois que ça va arriver. Quand tu pries au Seigneur, quelqu'un d'autre va, que le Seigneur va envoyer sur ton chemin, qui va prendre connaissance de ton besoin, puis qui va le mettre sur son cœur de t'aider. C'est bien ça. Et je veux que vous sachiez que l'Église est ici pour aider, puis je ne voudrais pas empêcher quelqu'un ou... de décourager quelqu'un, de dire, écoute, on a besoin, puis on veut partager ensemble, on est béni quand on vous aide, puis on veut que vous en parlez aussi, on veut vous encourager d'en parler, venez en parler à votre pasteur, mais je ne crois pas qu'on devrait aller à tout le monde et dire, as-tu 50 piastres, as-tu 100 piastres, as-tu 25 piastres, ça, c'est pas correct. Moi, dans mon cas, j'aimerais mieux crever de faim. T'sais? Mais, par exemple, il y a une différence, je peux aller à notre église, à l'église, je peux approcher le pasteur, parce qu'on est une famille ensemble. Puis on dit, écoute, on a un besoin, pareil comme la veuve qui a approché Élie dans l'Ancien Testament, puis elle dit, je suis une veuve, mon mari est décédé, ils vont prendre mes enfants, que je peux faire? Et puis, il a donné une façon de pouvoir lui aider financièrement, il a dit quoi faire. Fait qu'on doit s'aider un l'autre. Mais allez, venez voir votre pasteur, on a un comité organisé pour ça, ça nous fait plaisir de vous aider, mais parlez-en pas à tout le monde. Je comprends, j'apprécie que vous apportez. Est-ce qu'on devrait aider des gens qui n'ont pas, sont pas disciplinés et puis qui vont dépenser l'argent inutilement? C'est ça que vous voulez dire quand ils disent on est sans argent? Wow. C'est ça. Parce qu'ils dépensent inutilement. Ils n'appliquent pas la discipline de budget. Ou, madame, il y en a qui n'ont même pas l'intention de travailler ou quoi que ce soit, puis d'abuser de la société et d'autres. OK. Je suis content que vous apportiez cet exemple-là et vous demandez cette question-là. Il y a bien de façon qu'on peut aider des gens. Et une façon qu'on peut aider les gens, c'est en leur disant non. Il est temps que tu subisses la conséquence de tes actions. Ce n'est pas moi à souffrir la conséquence de tes actions. Et on ne manque pas de charité chrétienne quand on dit non. C'est le contraire. Pour une fois, on applique la charité chrétienne. Et il faut que le Seigneur nous donne le discernement pour le savoir quand c'est le temps d'aider et quand c'est le temps de ne pas aider. Il y a des gens qu'on sait que c'est une bénédiction d'aider. À cause des circonstances hors contrôle, de leur contrôle, et ils passent un temps difficile, ça va tout nous faire plaisir de leur aider. Mais il y en a d'autres que c'est continuel, en cause de mauvaise volonté, qui n'organisent pas un budget, qui ne vivent pas selon leurs moyens ou qu'ils n'ont pas l'intention de travailler. Et l'apôtre Paul, dans la même Bible, il dit aussi, sous l'onction de l'Esprit-Saint, « Celui qui est paresseux ne mérite pas de manger. » Fait que c'est pas moi qui vais le nourrir, il ne mérite pas de manger. Puis j'applique le principe chrétien en disant ça. Fait qu'il va falloir connaître exactement la situation. Et pour ça qu'ici à l'Église, nous avons un comité qu'on appelle de bons samaritains. On a un couple qui a un bon discernement là-dessus. Et lorsque quelqu'un a des besoins, ils vont aller les visiter chez eux. Puis non pas seulement qu'on va les aider financièrement, mais on va s'asseoir avec eux puis le savoir pourquoi ils sont dans le besoin, pour qu'ils puissent sortir du besoin. Un peu comme le proverbe chinois. Si je donne un poisson à un gars parce qu'il a faim, il va falloir que je donne des poissons tous les jours. Mais si j'y monte à pêcher, bien là, je n'aurai plus besoin d'y donner d'autres poissons. Il va l'apprendre lui-même. Il va se nourrir lui-même. C'est bien important. Je suis content que vous avez apporté ce point-là. Fait que sentez-vous pas obligé comme chrétien de toujours dire oui. Mais regardez la situation, puis il y a bien des fois qu'on aide quelqu'un en disant non, il faut que tu subisses la conséquence de tes actions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Moi, je voudrais juste demander, c'est par rapport à, disons, emprunter pour une maison ou une auto. Est-ce qu'on appelle ça une dette?
Bon, je suis content que tu apportes cette question-là ici. Ça va probablement être expliqué lorsqu'ils vont faire le budget ensemble ici, puis qu'ils vont vous enseigner comment préparer le budget. N'importe quel emprunt qui ne déprécie pas est un investissement. Là, ce n'est pas réellement une dette, parce que tu sais que si jamais quoi qu'il arriverait, tu pourrais te débarrasser de ta maison pour avoir au moins ton argent ou même plus. Fait que tu n'es pas réellement en dette parce que tu as une valeur équitable. Un auto, dépendant à cause de la situation. Si, mettons, il faut que je me rende à mon travail, j'ai besoin d'un auto. Puis si je n'ai pas d'auto, je perds ma job. Ça devient un investissement dans le but que je peux retirer de l'argent. Mais pourvu que je peux rencontrer mes paiements d'auto. Ça, c'est bien important. À cette heure, c'est pas tellement est-ce que je devrais emprunter pour une auto, mais quelle auto je devrais acheter? Est-ce que je devrais acheter une Cadillac ou une poney? C'est ça qui est la différence. J'ai rien contre les poneys, là, parce que Daniel vient de s'en acheter une, puis Mark n'avait. Mais tu comprends? Une annonce qu'elle vaut seulement 5 000, l'autre, elle vaut 35 000. Mais c'est juste d'aller selon nos moyens. C'est un moyen d'avoir une Cadillac, j'ai rien contre ça. Puis, Seigneur, donnant des Cadillacs en main. J'ai rien contre les Cadillacs. J'ai rien contre la compagnie de General Motors. Bien, je ne dirais pas ça parce que j'ai eu un automobile que. Hey, c'est enregistré, je suis mieux de faire attention. Là. Oui, Jean.
Si je suis votre principe, par exemple, moi, je vais prendre un loyer, par exemple. Un loyer, c'est une dette parce que je dois signer un bail. À ce moment-là, je ne peux pas le vendre, mon loyer. Est-ce que vous conseillez de tromper
les dettes? Oui. J'apprécie que vous mentionnez ça ici, mais encore une fois, quand que tu t'engages envers un loyer, c'est l'idée qu'en cause, ça devient le même principe que de l'auto. Pourvu que je loue un loyer selon mes moyens et non pas par-dessus mes moyens. Puis si je signe un bail de 400 $ puis je sais que je peux rencontrer 400 $ par mois, ce n'est pas une dette comme telle, parce que je sais que je peux rencontrer mon obligation. Mais si je m'en vais louer un loyer de 800 $ par mois, quand je sais que je ne peux pas le rencontrer, là, je sais que je vais m'endetter, et c'est là que je peux avoir certaines difficultés. Selon tes moyens, je recommande toujours à quelqu'un, surtout s'il fait seulement commencer une famille, qu'il est toujours mieux d'investir dans une maison que payer un loyer pour le restant de ses jours. C'est toujours mieux de sacrifier pour avoir une maison. Mais si vous avez un loyer, il n'y a rien de mal là-dedans pourvu que vous rencontrez vos obligations. Ou ce que vous ne rencontrez pas vos obligations chrétiennes, c'est lorsque le propriétaire, qu'il sait vous êtes chrétien, puis il vient vous voir, puis ça fait 3 mois que tu ne m'as pas payé ton loyer, puis il y a les gros problèmes avec vous sur le côté de la rencontre de vos obligations. Ça ne devrait jamais exister, ça, comme chrétien. On devrait toujours rencontrer nos obligations. Toujours. Et parce que sans ça, ça devient un reproche à notre témoignage.
Oui, ça.
Fait que ça, en autre mot, on parle de les gens qui sont payés sous la table. Oui. Une chose qu'on devrait mentionner ici, j'apprécie que tu emmènes ça, c'est que le chrétien, pour son bien-être spirituel, devra être honnête dans toutes ses transactions. La seule chose que je dois me demander, c'est si je suis obligé de mentir lorsque je reçois mon argent. Si l'assurance chômage, je m'en vais collecter l'assurance chômage me demande, avez-vous travaillé cette semaine, puis vous avez reçu de l'argent sous de la table, qu'est-ce que vous allez dire? Ah, bon, bien là, qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de mentir. Est-ce qu'un chrétien devra mentir? Non. Là, tu deviens faire de l'argent ton Dieu. L'argent est plus important. Puis pourtant, vous le savez que dans le temps de la persécution, on vient d'étudier ensemble l'Église de Smyrne, que les chrétiens perdaient même leur emploi, leur maison et tout pour le Seigneur. Et si vous êtes obligé de vivre maigre et non pas mentir, je vous encourage de vivre maigre et non pas mentir, même ça va être bon pour votre âme. Mais l'important, c'est est-ce que ça va me forcer à mentir? C'est ça qui est bien important. J'apprécie ici, il y a une dame ici dans l'église que lorsqu'elle a laissé son travail, elle pouvait retirer l'assurance chômage pourvu qu'elle disait à l'assurance chômage, je suis toujours disponible à retourner au travail. Mais comme qu'elle savait qu'elle n'avait pas aucune intention de retourner au travail, elle n'a pas accepter de recevoir l'assurance chômage. Mais il y a beaucoup de femmes qui vont dire, j'arrête de travailler, je vais leur dire que je suis disponible pour tirer l'assurance chômage. Mais j'apprécie cette femme-là qui est ici aujourd'hui pour avoir dit, non, je vais sacrifier à peine de vivre plus maigre, mais je n'irai pas perdre une bénédiction du Seigneur en mentant et disant que j'ai l'intention d'aller sur le marché de travail et puis je n'ai pas l'intention de le faire du tout et de retourner travailler. Et puis le Seigneur les a prospérés de d'autres façons. Le mari a eu des promotions, des choses de ce genre. Et vous ne pouvez jamais vous tromper. La vraie marche de la foi, c'est quand tu arrives à la croisée du chemin puis tu prends une décision de bien faire ou de mal faire. Si tu prends une décision de mal faire, au bout de la ligne, c'est impossible que ça arrive bien. Et si tu prends une décision de bien faire, malgré que ça te coûte cher sur le coup, c'est impossible, ça arrive mal au bout de la ligne, mais tu vas être béni, ça va bien arriver. Parce que ce que tu vas semer, tu vas récolter. Puis je vous garantis, c'est comme la madame a dit en arrière, c'est comme tu donnes de l'argent dans des sacs percés, et quelqu'un qui se trouve à travailler en dessous de la table et mentir pour avoir une pièce de plus, je peux vous garantir que cet argent-là ne le profitera pas du tout. Pour aucune considération. Oui, si tu veux te lever, Carole, s'il vous plaît. Oui, mais la seule façon que vous pouvez faire ça, c'est le fait que la personne qui est sans emploi, par exemple, peut peut-être aller travailler, le faire bénévolement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais aller travailler pour toi, mais je ne te charge pas. Donne-moi ce que tu veux. Est-ce que ça, ça peut se faire? Que lui prend l'avance de s'offrir et puis donne-moi ce que tu veux. S'il est sans emploi. Si, par exemple, qu'il a travaillé et puis tu lui as donné 300 $ mais qu'il va y enlever de 300 $ sur son assurance chômage, ça ne porte pas profit. Mais s'il est sans emploi complètement, il ne retire plus rien du tout, ça peut lui aider. Là, il va falloir que, non pas qu'il te charge, mais qu'il fasse bénévolement, puis toi, tu lui donnes un cadeau. Peut-être quelque chose de ce genre-là peut se faire, je ne sais pas. Bien, là, c'est toi qui vas faire, dans ton cœur, tu dises, est-ce que je vais faire la job pour lui aider en lui donnant le 300 $ ou est-ce que je vais faire la job parce que je suis séraphin et je ne vais pas payer le plein montant d'ailleurs? Il faut que toi, tu détermines dans ton cœur, est-ce que je le fais pour aider à lui ou est-ce que je le fais pour me sauver de l'argent? Il faut que la personne détermine dans son cœur elle-même qu'est-ce qui sont ses intentions envers ça.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.